Les séminaires du Collège de France.
Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici devant vous. C'est un grand honneur et je voudrais commencer par remercier le professeur Tarascon qui me donne la possibilité de vous parler aujourd'hui de la caractérisation des batteries avec les grands instruments, donc en essayant d'ouvrir cette boîte noire, comme il l'a dit, pour essayer de corréler finalement la performance électrochimique de la batterie avec les transformations des matériaux à des échelles microscopiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les grands instruments ? Donc, les grands instruments, ce sont des outils qui permettent de sonder la matière avec des sondes différentes. Ça peut être des faisceaux de plein de choses, des électrons, des photons, des protons, des ions, des lasers, des champs magnétiques intenses aussi font partie de cette classification sous le label grands instruments. Donc, ce sont des grandes infrastructures de recherche qui ont pour vocation de servir une communauté d'utilisateurs dans l'académie et dans l'industrie. Donc, on ne peut pas avoir un synchrotron dans son laboratoire, a priori, mais on peut accéder à ces grands instruments de recherche, nous, les chercheurs, en faisant des propositions d'expérience qui sont soumises, qui sont évaluées par des panels d'experts. Et puis, ensuite, on peut avoir accès à ces grands instruments. La typologie commune, c'est d'avoir des utilisateurs qui vont venir faire des expériences ponctuellement sur ces grands instruments. Alors, toutes ces modalités qui sont sur cette diapo sont très, très utiles dans l'étude des batteries. Je ne vais pas du tout parler de tout aujourd'hui. Je vais me focaliser sur un grand instrument particulier qui est le synchrotron. Et puis, je ferai une petite incursion côté neutron également. Donc, en France, on a deux synchrotrons. Le synchrotron national qui s'appelle Soleil, qui n'est pas très loin d'ici. Et puis, le synchrotron européen qui s'appelle le SRF, qui est à Grenoble. Et on a aussi à Grenoble le réacteur de recherche européen, l'ILL. Voilà, une fois que j'ai refocalisé mon propos aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en quoi ces techniques synchrotron, elles sont vraiment utiles pour l'étude des batteries. Et puis, je vous montrerai quelques exemples et je vais me focaliser sur vraiment les techniques dernier cri, on va dire, ce qui se fait maintenant, ces quelques 2-3 ans avec les techniques synchrotron. Je terminerai par une petite vision sur l'avenir. Alors, je commence par une incursion assez brève, mais dans l'histoire. Donc, les rayons X, ça date pas d'hier, hein, évidemment. Les rayons X, c'est une onde électromagnétique qui sont entre les ultraviolets et les rayons gamma, avec des longueurs d'onde qui sont très pratiques parce qu'elles permettent d'étudier la matière. En 1912, il y a eu une découverte très importante, le premier cliché de diffraction qui a été pris par von Loewe. Et puis, une année plus tard, il y a deux physiciens très connus, Henry et Bragg, qui ont formalisé quelque part le lien entre un cliché de diffraction et une structure cristallographique avec la loi que tout le monde connaît, qui s'appelle la loi de Bragg, qui a quelque part révolutionné la cristallographie moderne. Donc, quand on fait une expérience avec des rayons X, on a un matériau ou un système qu'on veut étudier qui va recevoir un flux de rayons X et on va mesurer un signal qui va être le produit des interactions entre les rayons X, les photons et la matière. Donc, il y a plusieurs types d'interactions, c'est pour ça qu'il y a plusieurs types d'expériences avec des rayons X. Le faisceau peut être absorbé en partie et transmis, donc ça, c'est la base de la radio. Les photons peuvent être diffractés ou diffusés par la matière de manière élastique sans transfert d'énergie ou inélastique avec transfert d'énergie. Donc ça, c'est la base de la diffraction et d'autres techniques spectroscopiques inélastiques. Et puis le faisceau, les photons vont exciter la matière et donc il peut y avoir émission de rayons secondaires qui peuvent être des photons ou des électrons. Donc ça, c'est la base de la spectroscopie. Donc en fait, on a trois grandes familles de techniques avec les rayons X. L'imagerie qui permet de regarder la morphologie, la diffraction ou la diffusion qui donne accès à la structure, et puis les techniques spectroscopiques qui donnent accès en fait à la chimie et aux propriétés électroniques. Alors toutes ces techniques, elles ont d'abord été développées dans les labos, mais en 1947, il y a eu une découverte très importante qui a un petit peu changé la donne en fait dans cette science avec la première observation de la lumière synchrotron aux États-Unis, puis le développement des premiers synchrotrons dans les années 60. Alors, un synchrotron, qu'est-ce que c'est ? C'est une machine assez complexe dans laquelle on a une source d'électrons. Ces électrons sont accélérés d'abord dans un accélérateur linéaire, puis dans un booster. Ils vont aller de plus en plus vite et devenir quasiment relativistes. Puis ces paquets d'électrons vont être injectés dans ce qu'on appelle un anneau. Alors dans cet anneau, ces paquets d'électrons, ils vont être courbés par des éléments de courbure qui sont des éléments magnétiques. Et à chaque fois qu'un électron courbe, tourne, il perd un petit peu de vitesse et il émet cette lumière donc ce rayonnement synchrotron qui est extrêmement directionnel et très intense. Donc ça, c'est le principe de base du fonctionnement d'un synchrotron. Ces dernières années, il y a eu énormément de progrès au niveau de la source elle-même, donc de la technologie de l'accélérateur, en fait, hein, de la partie centrale de l'anneau, qui a permis finalement d'obtenir des faisceaux d'électrons qui sont beaucoup moins larges, et donc de réduire ce qu'on appelle l'émittance. Et ça, ça a permis finalement d'augmenter considérablement les caractéristiques du faisceau de synchrotron. Donc sur ce graphe ici, vous voyez la brillance. La brillance du faisceau, c'est-à-dire le nombre de photons par seconde, par angle solide, etc. Et en fonction du temps, donc les sources de rayons X, elles n'ont pas tellement évolué. C'est un petit peu mieux, mais enfin, ça reste là. Et voilà les synchrotrons, première, deuxième, troisième, etc. génération. Et actuellement, depuis 2 ans, on est là. Donc on a des technologies modernes qui sont extrêmement intéressantes et qui nous aident beaucoup dans les batteries, en fait. Parce qu'on a des faisceaux qui sont de plus en plus petits, avec de plus en plus de flux et de plus en plus de cohérence. Donc la cohérence, c'est la propriété des ondes à vraiment être bien en phase. Et ça, c'est assez intéressant pour un certain nombre de techniques. Voilà, donc les techniques de laboratoire que vous connaissez, qu'on connaît tous, sont les mêmes en fait aux synchrotrons, mais il y en a juste beaucoup plus, avec une certaine zoologie qui provient de la capacité à avoir des setups assez différents et des faisceaux qui vont avoir des tailles différentes, etc. Je vous montrerai des exemples dans la suite. Donc, par exemple, on peut hybrider en fait les modes d'imagerie et les modes de diffraction et faire de la diffraction en 3D. Vous verrez quelques exemples. Au niveau de la spectroscopie, c'est pareil. Le synchrotron ouvre la porte à des spectroscopies qui sont inaccessibles en laboratoire. Par exemple, les spectroscopies de résonance inélastique ou d'émission qui sont très intéressantes pour aller sonder certaines transitions électroniques dans la matière. Donc finalement, les techniques synchrotron, elles ont 4 gros avantages. Le premier, c'est une très grande pénétration des X durs qui permet d'imager des gros objets et de passer du 2D au 3D. Deuxièmement, une résolution spatiale incroyable. En fait, on a des faisceaux qui peuvent aller jusqu'à 20 nanomètres maintenant. Donc on est capable de cartographier avec une précision diabolique la matière. Des résolutions temporelles également qui sont très très bonnes. On fait des acquisitions de l'ordre de la milliseconde. Et puis, finalement, une capacité à résoudre la chimie, la structure fine des matériaux qui est bien meilleure en fait, qu'avec des sources de laboratoire. Donc, ces 4 qualités-là, en fait, sont les qualités qui font que pour l'étude des batteries, ce sont des très bons outils. Donc, quand on regarde des batteries, si on s'intéresse à la sensibilité, à la sélectivité et couplé avec la résolution temporelle et spatiale, on a 3 grandes catégories d'études. Donc, vous connaissez bien sûr la diffraction. Avec le synchrotron, on peut aller résoudre des phases intermédiaires ou regarder les cinétiques, y compris avec des vitesses de charge qui sont très élevées en fait. Côté redox, on peut suivre les réactions redox en temps réel avec des techniques donc opérando, multi-edge, ou par exemple dans cet exemple, les auteurs ont regardé des composés lithium et manganèse rich de cathode NMC, et ils sont capables de suivre avec le XANES et l'EXAF qui sont des modes en fait de détection de l'absorption X, sont capables de suivre en direct le processus d'oxydation du nickel qui est couplé à des évolutions de l'ordre local chimique. Et ça, c'est très important pour comprendre le processus redox dans le matériau pendant le cyclage de la batterie. Et puis, il y a des techniques un peu plus récentes qui sont des spectromicroscopies où on va pouvoir en fait cartographier la distribution d'une espèce ou d'une phase en utilisant par exemple ici le nanoxanès au seuil du nickel pour aller regarder la distribution du lithium dans une électrode ou ici dans un matériau de type LFP, cartographier les phases lithium rich, lithium pauvre. Donc ces techniques-là sont relativement connues, mais cependant restent très très importantes dans le domaine des batteries. Et puis, la grande force des rayons X, c'est de pénétrer la matière, je l'ai dit. Donc si on parle de pénétration, eh bien, on va être capable de pouvoir regarder des gros objets, donc des batteries commerciales. Voilà. Alors ça, c'est un film qui a été fait à l'ESRF, qui utilise une technique qu'on appelle la tomographie hiérarchique. Donc vous allez regarder d'abord l'objet dans son ensemble, puis vous allez prendre des zones d'intérêt et zoomer de plus en plus pour aller voir vraiment le cœur de la batterie. Et vous voyez qu'on rentre vraiment, alors bon, c'est un peu des vues d'artiste, mais on rentre dans la batterie, on est capable d'aller voir ce qui se passe à l'échelle des composants, entre les composants. En parallèle de ça, on peut faire ce genre de mesures avec des résolutions temporelles qui sont très très bonnes et mesurer en fait dans une batterie l'industrie commerciale également, les phénomènes d'emballement thermique, par exemple avec des flashs, en fait, des radios extrêmement rapides qui permettent de regarder tous les dégagements, le processus fin de l'explosion. On a également accès à des échelles plus basses, avec à l'échelle micrométrique, à des variations morphologiques dans des particules. Par exemple, vous voyez ici une particule de NMC qui est en train de craquer, et on est censé voir là-haut... Bon, on la voit pas. On est censé voir là-haut une dendrite qui s'ouvre dans une argyrodite. Donc ça, c'est les travaux récents qui sont faits à Oxford. Voilà. Donc ces exemples, c'est pour vous montrer en fait la diversité des techniques et à quoi ça sert dans les batteries. Je dirais que la tendance actuelle, c'est également de comprendre que une seule technique ne suffira pas en fait, et qu'il faut coupler la compréhension de la structure, de la chimie et de la morphologie dans les systèmes. Donc ça veut dire combiner des techniques. Donc là, j'ai pris quelques exemples de la littérature, il y en a beaucoup. Ce travail, par exemple, du groupe de Hong Li, donc où ils essayent de stabiliser le LCO à haut potentiel en ajoutant des dopants. Donc ils ont des bons résultats au niveau de l'électrochimie. Et pour comprendre le mécanisme de manière fine, dans ce papier, ils ont combiné trois techniques synchrotron opérando ou in situ. Donc la diffraction pour aller regarder la structure et les évolutions, les transitions de phase pendant les réactions. Tomographie 3D pour regarder la distribution élémentaire, notamment des dopants, des traces de dopants dans les particules, et puis une technique de surface, de spectroscopie X, pour aller regarder les mécanismes aux interfaces, et notamment le changement dans la composition et la morphologie de la CEI liée à l'utilisation de ces dopants. Voilà, donc le message ici, c'est que c'est très compliqué, en fait, ces processus, évidemment, et qu'il faut, faut combiner ces trois techniques pour vraiment arriver à une compréhension globale de l'apport, en l'occurrence, de ces dopants dans ce système. Alors, c'est beaucoup d'équipes combinent les techniques X avec d'autres techniques. Donc ça, c'est un papier du groupe de Jean-Marie qui montre que c'est très bien de faire du synchrotron, mais qu'il faut toujours bien penser à analyser finement l'électrochimie. Donc ça, c'est aussi un message. Les techniques synchrotron sans une analyse de l'électrochimie, quand on fait de l'opérando, ben c'est assez limité. Et puis ça, c'est un autre exemple qui est intéressant, parce que les techniques synchrotron qui permettent d'accéder à l'ordre chimique local, comme la PDF ou l'EXAFS, sont très bien complémentées par des techniques de laboratoire, comme la RMN, qui permettent d'avoir des informations complémentaires. Voilà. Donc, une dernière chose que je voulais dire dans cette introduction, c'est qu'il y a une petite tendance ces dernières années à faire ce qu'on appelle le multimodal et des multitechniques et de la corrélation. Donc là, c'est deux papiers assez intéressants, les deux. Ici, sur des cellules commerciales qui sont prises d'un pack automobile, où les gens se sont posé la question du vieillissement, de savoir que si ça vieillissait différemment suivant la localisation de la cellule dans le pack. Et en fait, pour répondre à cette question, ils ont combiné des rayons X en tomographie, des rayons X en diffraction, donc c'est déjà assez difficile, avec d'autres modalités, avec des capteurs, pour mesurer par exemple la distribution thermique ou ce genre de choses. L'exemple d'à côté, ce sont des gens qui ont instrumentalisé des putschs de labo lithium-soufre avec toutes sortes de capteurs pour mesurer la pression, la température, etc. Donc ça, c'est aussi des choses intéressantes qui se développent de plus en plus, c'est-à-dire le multimodal pour avoir une vision un petit peu plus holistique finalement du comportement de la batterie. Donc les techniques synchrotron, je pense vous avoir montré à ce moment-là de mon propos que c'est très bien, c'est très intéressant, mais ça doit toujours être coupé à d'autres modalités en fait, et je ne parle pas de la modélisation, mais c'est aussi une des modalités avec lesquelles on aime bien coupler les résultats synchrotron. Alors ici, une petite analyse bibliographique très rapide, mais qui montre l'augmentation, le boom en fait, hein, de ces techniques synchrotron ces dernières années. Alors, on voit pas très bien ici, c'est 2010, donc c'est une courbe qui évidemment suit aussi la quantité globale de publications dans les batteries, mais quand même, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à partir de 2010, si on rajoute le mot opérando dans la recherche, on a cette courbe-là. Donc la capacité à résoudre en fait spatialement et temporellement des mécanismes, c'est vraiment ce qui caractérise les mesures synchrotron. Une autre statistique intéressante qui est faite par la Ligue des synchrotrons, c'est donc les synchrotrons s'intéressent à savoir à quoi ils servent, hein, et font ce genre de surveille. Donc là, c'est sur 10 ans à peu près au niveau mondial, en fonction du domaine de recherche. Et vous voyez que le plus de publications, donc c'est une étude, hein, qui provient de cette organisation, le domaine des batteries, c'est le domaine où il y a le plus de publications basées sur des techniques synchrotrons. On a aussi la biologie, le magnétisme, etc., qui sont des domaines très importants. L'impact de citation pondéré, donc c'est 3 dans le cadre de papier sur les batteries. Donc ça veut dire qu'une publication qui contient une étude de synchrotron est 3 fois plus citée en moyenne, bien sûr, qu'une publication dans les batteries, hein, qui n'en contient pas. Bon, voilà, je donne ce chiffre. Personnellement, je pense qu'effectivement, le synchrotron apporte beaucoup d'informations. J'ai trouvé intéressante cette étude. Voilà. Donc, c'était une introduction un petit peu longue, mais pour planter un peu le décor. Et maintenant, je vais rentrer un peu plus dans des études plus détaillées. Vous avez compris, évidemment, que c'est assez compliqué d'ouvrir cette boîte noire parce qu'on a plein de processus qui se passent à toutes les échelles différentes et que finalement, il faut qu'on arrive à comprendre ce qui se passe à l'échelle atomique jusqu'à l'échelle de la cellule, voire l'échelle du module. Donc, la batterie, c'est le théâtre de l'hétérogénéité. Il y a des hétérogénéités chimiques, structurales, morphologiques, en fonction du temps, en fonction de l'espace. En plus, elles sont corrélées avec une prédominance du rôle des interfaces qui elles-mêmes sont de types différents et hétérogènes. Donc dans notre équipe, c'est un petit peu ce qu'on regarde avec ces outils. Donc je vais vous montrer comment on arrive à effectivement étudier ces hétérogénéités de concentration ou de réactivité aux différentes échelles pertinentes. Alors je ne vais pas tellement traiter de l'échelle atomique qui est peut-être l'échelle qui intéresserait le plus le professeur Tarascon, mais je vais aller traiter des échelles supérieures, les échelles jusqu'à l'échelle de l'objet, en fait, de la batterie elle-même. Voilà. Alors, je commence par l'échelle de la particule, donc la particule active, dans laquelle on s'intéresse à comprendre les réactions et les problématiques de contraintes. Avec deux questions, pourquoi est-ce que ces particules, elles craquent ? On sait que c'est un des mécanismes de dégradation les plus importants. Et puis, une deuxième question qui est, en quoi l'activité d'une particule est liée finalement à son environnement dans l'électrode, donc à la chémomécanique dans l'électrode. Donc ça, sont vraiment les deux questions importantes que je vais traiter là. Donc il y a beaucoup de littérature sur le sujet, beaucoup de techniques qui permettent d'observer le craquage des particules ou les hétérogénéités de concentration ou d'état de charge dans des particules. Il y a même des techniques qui s'intéressent à mesurer les états de contrainte, par exemple ici sur une particule unique ou ici en utilisant des techniques de diffraction cohérente des rayons X. Donc c'est très bien, mais il y a quand même un problème de représentativité. Ici par exemple, c'est quand même assez loin du fonctionnement d'une vraie batterie. Un problème également de statistique. Quelquefois, on image une seule particule. Bon, on ne sait pas vraiment si elle est représentative de l'ensemble, en fait. Donc, il y a beaucoup de challenges dans ce genre d'études, et notamment deux en particulier. Donc, il faut qu'on arrive à imager la morphologie, la structure et la contrainte en même temps. Et ça, il n'y a pas de technique qui le permet à l'heure actuelle. Et qu'on ait un petit peu de statistique et qu'on regarde à différentes échelles. Voilà, c'est les deux grands enjeux qu'on a. Alors, on va attaquer le premier enjeu sur les cracks en travaillant sur un matériau qui, pour nous, a été un petit peu un matériau modèle. Donc, c'est des anodes de niobiate qui ont la bonne idée d'être des particules un petit peu élongées comme ça. Et il a été reporté dans la littérature qu'elles craquent. Ça, c'est de la microscopie optique. Donc ça, pour nous, c'est un bon système modèle pour essayer d'appliquer une technique qui est nouvelle, qui n'a jamais été employée dans les batteries, qui s'appelle la diffraction de microlaoué. Alors j'explique rapidement comment ça marche. Donc vous avez votre électrode qui est placée dans une cellule qui fonctionne, donc c'est de l'opérando, et vous allez illuminer cette cellule avec un faisceau polychromatique. Il y a toutes les longueurs d'onde, donc en fait vous allez avoir de la diffraction dans toutes les directions possibles, par tous les plans interatomiques possibles dans l'échantillon. Donc vous allez vous retrouver avec une myriade de pics de Bragg. L'intérêt de cette technique, c'est que c'est du microlaoué, donc vous avez un faisceau qui est tout petit, fait 500 nanomètres, et vous allez pouvoir scanner une particule de choix, et à chaque point, vous allez obtenir cette myriade de pics de Bragg. Une mesure, c'est une seconde. Vous vous retrouvez avec une quantité astronomique de données que vous analysez, et vous allez pouvoir résoudre non seulement la structure cristalline en termes de paramètres de maille, mais aussi les orientations du cristal et la contrainte dans le matériau. Donc c'est exactement ce que les collègues ont fait. Donc on choisit une particule d'intérêt qu'on repère par la fluorescence, et puis on va aller scanner cette particule. Voilà, et à chaque point, on va obtenir le cliché de microlaoué. Alors ici, c'est un zoom sur des régions spécifiques, et vous voyez, c'est pendant l'opérando à trois états de charge différents avec trois couleurs. Ce que vous voyez, c'est que les choses changent beaucoup. Les lignes de pics de Bragg se déplacent, les pics de Bragg changent de forme, etc. Et alors, ce qui est frappant, c'est qu'en bas de la particule, c'est pas du tout pareil qu'en haut de la particule. C'est extrêmement hétérogène à l'échelle de la particule. Alors ça, c'est très intéressant, ces déplacements, on peut tout à fait les comprendre. Lorsqu'on a des lignes de pics de Bragg qui se déplacent comme ça, c'est lié à une rotation, un changement d'orientation du cristal. Lorsque vous avez des pics de Bragg qui vont bouger sur leur propre ligne, c'est que vous avez une variation du paramètre de maille. Et lorsque vous avez un étalement des pics de Bragg dans les deux directions, c'est que vous avez des micro-contraintes dans le matériau. Voilà. Ça, on le sait avec des simulations. Donc maintenant, on regarde les données de manière précise et on est capable de faire une cartographie. Donc ici, vous avez le temps, le cyclage, et ici, vous avez la distance le long de cette particule. On part de là, on arrive jusque là. Et on fait une cartographie. Et ce qu'on reporte ici, c'est le ratio des paramètres de maille C sur A. Donc c'est très, très, très bien connu hein, dans ces matériaux. Ce qui se passe, on a une contraction dans la direction C et une légère augmentation dans la direction A pendant la délitiation. Donc on part d'un état homogène, on termine dans un état homogène, mais vous voyez qu'au milieu ici, dans la région où on est presque sur un plateau au niveau de l'électrochimie, vous avez énormément de couleurs, énormément d'hétérogénéité en fait. Et, vous avez jusqu'à 2,6% de variation dans ce paramètre de masse, qui est vraiment beaucoup. Donc on voit bien que cette particule, au cours de son cyclage, elle a un endroit en particulier où il y a vraiment des fortes tensions, des fortes contraintes au niveau des paramètres de maille. Vous pouvez coupler ça avec la deuxième modalité, vous avez accès à la rotation avec cette technique, la rotation de la particule. Alors ce qu'on montre, c'est que cette particule, elle est cassée en trois morceaux, et en plus on a des morceaux qui ne vont pas tourner dans la même direction. Mais c'est parfaitement corrélé à ce qui se passe au niveau du paramètre de maille. La troisième information, c'est le microstrain. Donc là, vous avez une cartographie également. On part d'une situation plutôt homogène, on termine dans une situation plutôt homogène, mais au milieu, vers ce plateau-là, eh bien, on a beaucoup de contraintes qui se développent dans la particule. Donc tout ça est très cohérent, et on a finalement une technique qui nous permet de coupler l'électrochimie avec la micromécanique à l'échelle de la particule. Donc ça, c'est une nouvelle technique qui permet de faire, de mesurer la contrainte et les hétérogénéités dans une batterie qui fonctionne de manière réaliste pendant du fast charging. Donc ça, c'est une première en fait, et c'est une technique qui peut s'appliquer à n'importe quelle particule cristalline, dans n'importe quel système, sodium, potassium, du moment que la particule est un petit peu grosse, parce qu'en dessous du micron, c'est difficile. Voilà. Le deuxième exemple que je voulais montrer concerne la question de la chémomécanique dans l'électrode et de l'influence sur le comportement des particules. Donc là, je vais prendre un système complètement différent. On travaille sur une anode de silicium graphite. Donc on sait bien que le silicium, c'est un matériau qui potentiellement est très intéressant et a une très forte capacité théorique, mais en fait, à cause du mécanisme d'alliage, ça gonfle, ça dégonfle. Donc en fait, en pratique, on a énormément de vieillissement, de délamination, de fragmentation des particules et de SEI qui empêchent finalement d'utiliser beaucoup de silicium dans les anodes commerciales. Donc la problématique de la chémomécanique, elle est particulièrement intéressante dans ce genre de système où on a 300% d'expansion volumique quand on met du lithium dans ce matériau. Alors là, on va utiliser une autre technique pour regarder ce matériau du point de vue de la morphologie. Ça s'appelle la nano-holotomographie. Donc on va préparer des échantillons tout petits qu'on va mettre dans le faisceau de rayons X. On va, sur un plateau de rotation, on va tourner avec beaucoup de petits angles et acquérir les données qu'on appelle des projections qui vont nous permettre ensuite de reconstruire l'échantillon en 3D. Alors la particularité, c'est qu'on va travailler à quatre distances différentes, c'est d'où la holotomographie. Et ce qui est intéressant avec cette technique-là, c'est qu'on est au-delà, on va dire, de l'absorption normale. Donc quand vous faites une radio à l'hôpital, vous êtes en absorption, vous avez des niveaux de gris. Ici, on est en contraste de phase. Donc, c'est une technique qui a été développée dans la métallurgie d'abord pour mieux voir en fait des éléments qui ont à peu près des densités électroniques similaires qu'on n'arrive pas à distinguer très bien avec de l'absorption. Donc cette technique, elle est relativement employée dans le domaine des batteries, mais très récemment, donc Victor Van Pen a montré qu'il était possible de l'appliquer de manière opérando. Donc c'est vraiment un challenge technique, puisqu'on a, une toute petite batterie qui doit fonctionner, qui doit tourner à 360 degrés, etc., sur laquelle on est capable de mesurer la morphologie à des échelles nanométriques. Donc c'est une technique vraiment intéressante pour aller regarder toutes sortes de phénomènes. Par exemple ici, du plating de lithium dans une batterie polymère symétrique POLITFSI, où vous voyez la morphologie qui change en fonction du plating stripping. On peut aussi regarder des dendrites dans des argyrodites. Vous voyez ici une dendrite qui se forme, et puis de la réactivité en direct en fait de l'argyrodite avec le lithium qui se passe à l'intérieur de ce crack qui s'ouvre. On peut aussi regarder la nucléation et la croissance de dendrites de lithium sur un collecteur. Et vous avez ici une vision 3D de la structure du lithium avec une résolution extrêmement bonne. Donc on applique cette technique opérando à notre problématique de silicium. Donc on a une petite batterie avec notre anode composite silicium dans laquelle on peut regarder avec un champ de vue, ce qu'on appelle un champ de vue d'environ 100 microns par 100 microns, une résolution de voxel de 50 nanomètres qui nous permet d'aller voir jusqu'à la particule individuelle. Et on fait de l'opérando. Donc ça, c'est la première image en fait d'opérando en nanotomographie sur ce genre de matériaux, enfin même sur n'importe quel genre de matériaux, où vous voyez ici l'électrode, vous voyez les grains qui sont les grains de graphite, le silicium il est très difficile à voir, mais on voit bien l'expansion et la contraction pendant le cyclage. Et vous pouvez analyser de manière quantitative, donc vous avez accès, en labellisant un peu les particules, en regardant un peu les variations de position, vous avez accès au champ de déplacement. Donc vous voyez bien que la node, en fait, elle gonfle dans les deux directions dans cette manip. Et ici, on a même accès au champ de déformation, et vous voyez avec les couleurs qu'il est relativement hétérogène à l'intérieur de cette batterie. On peut aller plus loin parce qu'on peut labelliser dans cette petite zone qu'on regarde, on peut labelliser chaque particule, lui donner une couleur et la repérer, et on peut l'analyser. Et donc on a accès en fait au champ de déformation local, particule par particule, et vous voyez que les couleurs ne sont pas toutes les mêmes, donc c'est quand même assez hétérogène pendant le cyclage. Alors ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça vous donne accès à la lithiation, à la délithiation et à la dynamique de ce processus dans chacune des particules. Donc si vous comparez maintenant le comportement à l'échelle de l'électrode, vous avez ici le strain en fonction du potentiel, donc au cours de la lithiation ici, puis délithiation là, et vous comparez ça avec la moyenne des particules, vous avez un très bon accord. Donc en moyenne, tout le monde se comporte pareil. Donc voilà. Par contre, si vous regardez de manière individuelle, chaque particule labellisée ici, eh bien vous avez des énormes écarts en fait de comportement, donc des énormes écarts de tas de charges en fait locaux en fonction de où est votre particule dans votre électrode. Voilà, donc ça c'est une visualisation directe en fait du niveau d'hétérogénéité que vous avez dans ce genre d'électrode. Donc en général, quand on fait des mesures, on les fait moyenner sur toute l'électrode. Donc là ça montre l'importance d'aller regarder à l'échelle de la particule. Donc on peut sortir toutes sortes d'analyses quantitatives de ce genre de mesures. Vous isolez les particules, vous pouvez regarder la localisation de ces particules vis-à-vis d'un cluster de silicium. Vous pouvez regarder la localisation de ces particules vis-à-vis de régions dans lesquelles on a des espèces de tunnels de diffusion rapide, hein, qui sont dus à la morphologie de l'électrode. Vous pouvez avoir toutes sortes de grandeurs d'intérêt, comme la couverture par l'électrolyte, etc. Et en analysant en fait l'ensemble de votre électrode avec toutes vos particules, vous êtes capable de dire quels sont finalement les critères qui comptent, qu'est-ce qui compte pour déterminer l'activité d'une particule. Et là, ce qu'on a montré ici, c'est que ce qui compte, c'est essentiellement la distance d'une particule vis-à-vis d'un de ces chemins de conduction privilégiés un peu rapides. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on est déjà en train de faire le lien entre ce qui se passe à l'échelle particule et ce qui se passe à l'échelle de l'électrode. Et que ce lien, en fait, il est obligatoire. Si on travaille à l'échelle d'une seule particule, on ne sait pas laquelle on regarde, donc on ne sait pas en quoi on est représentatif, finalement, d'une électrode. Ça m'amène directement au deuxième point, donc je voudrais vous montrer ce qu'on regarde au niveau des hétérogénéités à l'échelle de l'électrode. Et cette fois-ci, on s'intéresse à des hétérogénéités de concentration en lithium ou de concentration des hétérogénéités d'état de charge à travers l'épaisseur d'une électrode. Donc pour regarder ça, on utilise une autre technique. C'est ce qu'on appelle la diffraction en microfaisceau et en mode scanning. Donc je vais expliquer ce que c'est. On a deux cas d'études que je vais vous montrer. Un premier sur un système assez classique, graphite LFP, mais on a travaillé avec un industriel sur un matériau qui a été démonté en fin de vie, donc après 3000 cycles, et on a regardé en fait le graphite vieilli, avec la question de comprendre quelle est l'origine de ce vieillissement, et d'essayer de résoudre spatialement les problématiques de perte de matière active et de perte de lithium cyclable. Le deuxième exemple, c'est complètement différent, c'est sur des microbatteries toutes solides, sans anode. Donc là, la problématique a aussi été expliquée par Jean-Marie Tarascon, donc c'est augmenter la densité d'énergie des batteries en enlevant tout ce qui est inactif, les liants, les conducteurs électroniques et cette anode. Donc là, il y a beaucoup de problématiques chémomécaniques également dans la cathode, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à étudier l'électrodéposition à l'interface avec le collecteur de courant. Voilà, je vais traiter ces deux exemples qui utilisent la même technique. Donc vous avez une cellule qui contient votre système d'intérêt, votre batterie, qui va être sur laquelle on va envoyer des rayons X évidemment, et on va bouger cette cellule très très vite dans le faisceau de manière à faire un map dans les deux directions horizontales et verticales, en acquérant à chaque fois un pattern de diffraction. Donc ça mesure en fait une cartographie de votre électrode. Dans chacun de ces pixels, vous avez un spectre de diffraction complet. C'est la même chose pour les microbatteries, donc c'est juste que le système est plus petit. La microbatterie fait 40 microns de haut et on illumine avec le faisceau et on fait cette mapping avec un certain nombre une certaine vitesse, une certaine résolution. Et on mesure à chaque fois de la diffraction. D'accord ? Donc je pars sur le premier exemple, donc c'est l'exemple du graphite avec LFP à la cathode. Donc on a cet échantillon de graphite, et dans chacun des pixels de notre cartographie, eh bien on a la dynamique en fait de lithiation qui est bien connue. Le graphite, c'est l'intercalation du lithium entre les plans de graphène, et donc on a un déplacement des pics de Bragg qui correspond à la séquence de staging dans le graphite avec la formation des phases LIC12 et LIC6. Vous avez ici une photo de la manip et avec un zoom de notre petite batterie qui est bien connectée, placée dans le faisceau. Donc les rayons X arrivent par ici, le détecteur est ici. Et on va bouger très très vite cette batterie pour faire ce mapping. Alors le résultat qu'on obtient, c'est le suivant. Dans un graphite qui est pristine, qui a juste été formé, en fait, on fonctionne d'un cyclage où on va aller de plus en plus vite. On mesure ce genre de cartographie. Ici, vous avez le séparateur, les ions arrivent donc par le haut. Et vous avez les couleurs qui représentent en fait où vous êtes, hein, en fonction du cyclage, donc purement graphite, LIC12, LIC6. Alors vous voyez qu'il y a des hétérogénéités, il y a des endroits où c'est tout homogène, et il y a des endroits où on a deux couleurs, et on a même le front en fait de réaction qu'on peut voir se déplacer. Alors l'intérêt, on peut faire une déviation map, donc on fait la différence à la moyenne, ça montre un peu mieux peut-être les hétérogénéités. Vous voyez qu'ici on a beaucoup plus de lithium qu'en bas, donc on est assez hétérogène entre le séparateur et le collecteur de courant, et plus on va vite, plus on charge vite, plus ça va être hétérogène. Alors maintenant, l'intérêt, c'est de regarder le graphite vieilli avec la même technique. Ça, c'est assez connu, hein, ça a déjà été publié, mais sur le graphite vieilli, il n'y a pas tellement de connaissances. Et ce qu'on voit, c'est que les cartographies dans le graphite vieilli sont beaucoup plus hétérogènes déjà que dans le graphite non vieilli. Et on va même voir un phénomène assez rigolo qui est que ici, c'est bleu en haut et rouge en bas, alors que ici, dans le pristine, ça va être le contraire. Donc ça veut dire que la dynamique des hétérogénéités, elle est complètement différente dans un graphite vieilli. Bon, alors ça, pourquoi ? Pour aller plus loin, on a regardé un peu plus précisément dans chaque pixel les évolutions de ces pics, et on a découvert qu'on avait une partie du graphite qui était inactif. Alors, soit il est mort, c'est-à-dire que c'est des pixels où il n'y a rien qui bouge, ou une partie du pixel, il y a des pics qui ne bougent pas, ce graphite ne fonctionne plus, ou alors il est très lent. Donc il peut être réactivé, mais il est vraiment très lent. Quand on fait une cartographie, on a une distribution de cette inactivité qui va non seulement être hétérogène en concentration, on a du graphite inactif, mais on a aussi du stage 3, 2 ou 1 qui est inactif. Et puis on a une cartographie globale avec une distribution dans l'espace qui est clairement hétérogène, avec beaucoup plus de graphite hétérogène qui se trouve côté séparateur. De graphite inactif, pardon, qui se trouve côté séparateur. Et ça, c'est parfaitement corrélé au map dynamique que je viens juste de vous montrer, qui regarde plutôt les hétérogénéités réactionnelles, hein, liées au plateau, en fait, dans la forme du potentiel du graphite. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, parce qu'avec ce genre de mesure, on a un scénario, en fait, pour comprendre ce qui se passe dans ce graphite. Effectivement, on a une couche supérieure à l'interface avec le séparateur qui est inactivée, et des dynamiques de lithiation qui sont complètement différentes du fait de la présence de cette couche dont on pense qu'elle vient d'un travail de cette partie-là qui a été trop important, puisque les ions arrivent toujours de ce côté-là, et donc un vieillissement accru de ce côté-là. On a confirmé avec des mesures de nanotomographie, donc la même technique dont j'ai parlé avant, dans laquelle on voit ici l'échantillon vieilli. Donc au passage, vous voyez que les grains ont vraiment changé et sont recouverts d'une couche de SEI. Et ici, on plotte la connectivité en fait à travers l'électrode. Donc quand on est dans une électrode relativement jeune, eh bien tout le monde est bien connecté. Donc on voit bien que les chemins de diffusion ionique vont être corrects, on va dire. Par contre, dans l'électrode vieillie, ben c'est bien connecté en bas, hein, ici. Mais là, ça commence à être très très mal connecté. Donc c'est tout à fait en accord avec l'hypothèse provenant de la microdiffraction. L'étape d'après, c'est d'étudier particule par particule dans le même esprit que ce que je vous ai montré avant, hein, sur le silicium. Vous voyez qu'on est capable d'imager particule par particule la particule elle-même, et puis ça, c'est la SEI à la fois à l'intérieur et autour de cette particule de silicium. Voilà. Le deuxième exemple avec la même technique concerne ces microbatteries. Donc, ce sont des microbatteries qui sont constituées de LCO avec du lipon, qui sont fabriquées au CEA Leti, qui ont fabriqué une dizaine de ces microbatteries comme ça sur un chip, et on les a illuminées avec le faisceau synchrotron. On fait d'abord une radio en fait d'une de ces batteries qui a très bien marché, puis on voit qu'on a bien l'architecture qu'on pense. Et comme on fait de la diffraction en mapping, on a en fait dans chacun des pixels un spectre de diffraction. Donc là, on s'intéresse au titane et on regarde l'arrêt 1.0.0 du titane, et on la colorie en fait, et on a ici l'évolution pendant le cyclage de ce titane. Donc ce que vous voyez, ben c'est que ça respire en fait, hein, donc le titane il monte et il descend. Alors il monte et il descend pourquoi ? Parce qu'on est en train d'électrodéposer du lithium et ensuite de le dissoudre. D'accord ? Donc maintenant, puisque j'ai tout le spectre de diffraction, je peux regarder le pic du lithium si j'ai envie et avoir la même analyse avec le pic du lithium. Donc vous voyez ici le pic 1,1,0 du lithium, on la regarde en temps réel et voilà ce qu'on voit. Donc vous remarquez qu'en dessous du titane, on est bien en train de former, on a l'impression qu'on forme des colonnes en fait, de lithium qui est en train de se déposer et ensuite de se dissoudre. Donc on a accès à la dynamique en temps réel de l'électrodéposition du lithium avec cette technique. Alors vous remarquerez aussi qu'on a l'impression qu'il y a des colonnes et puis entre les deux il y a du noir. On a peut-être qu'on pourrait se dire tiens il n'y a pas de lithium, mais non pas du tout. Ça c'est lié à la technique elle-même. On a un signal que quand on est en condition de braque. Donc en fait il y a bien du lithium partout, simplement ces grains. Ils doivent, pour donner un signal, être dans la bonne condition de braque. Et en fait, comme ça clignote, comme vous pouvez le voir, ça veut dire que ces grains, ils tournent en permanence. En fait, ils grandissent, ils tournent. Donc, on a accès, avec ce genre d'expérience, à la vie, en fait, la vie de cette croissance cristalline des colonnes de lithium au cours du cyclage de la batterie et un certain nombre de paramètres quantitatifs qu'on peut exploiter. Donc, ça, c'est très intéressant et c'est très complémentaire d'autres techniques qui sont aussi très belle pour aller regarder les interfaces et le plating ou stripping du lithium, mais qui sont rarement à une telle échelle en fait de résolution spatiale et temporelle. Et c'est tout à fait applicable sur du sodium ou d'autres types de batteries. Voilà. Donc, j'ai couvert en échelle particule une échelle électrode. Donc, je ne vais pas m'arrêter là, puisque je vais aller jusqu'à l'échelle de la batterie elle-même et vous montrer ce qu'on peut faire à l'échelle d'une vraie batterie. Donc, maintenant, je vais avoir deux questions. Une question de compréhension du vieillissement à l'échelle d'une cellule et une question relative à des cellules intelligentes qui sont équipées de capteurs pour essayer de comprendre avec les rayons X, est-ce qu'on peut apporter de la connaissance sur ce que mesure le capteur. Donc le premier cas, je vais m'intéresser à des petites batteries cylindriques qui sont des batteries de type industriel avec du silicium graphite à l'anode et de la NMC à la cathode. Donc on a déjà parlé du silicium, bon ces batteries elles perdent assez vite de la capacité quand même. Donc la question c'est de comprendre un petit peu pourquoi. Et puis le deuxième exemple, eh bien c'est un exemple en collaboration avec le groupe de Jean-Marie où on a travaillé sur une cellule souple au sodium qui était équipée d'une des fibres optiques sensibles permettant de faire des mesures infrarouges. Alors, je commence avec mon premier exemple sur le silicium graphite et le NMC. Pour répondre à cette question, je vais avoir besoin de combiner trois types d'expériences. Alors, je vais faire d'abord de l'imagerie neutronique. Alors, je vais utiliser les neutrons en combinaison avec les rayons X ici. Alors, les neutrons, ils ont une interaction avec la matière qui est assez différente. Les rayons X, ça interagit avec les électrons et les neutrons, ça interagit avec les noyaux. Donc, par exemple, aux neutrons, on voit très très bien le proton et le lithium, alors qu'ils sont quasiment invisibles avec des rayons X en tant que tel, en tant qu'élément. Par contre, les rayons X voient très très bien les métaux. Donc je vais avoir cette double modalité qui va me permettre de colorer ma batterie en fait avec du bleu pour tout ce qui est sensible avec mes neutrons et du rouge pour tout ce qui est sensible avec les X. Donc avec le rouge, ce que je vois très bien, c'est le casing extérieur de la batterie et puis également les collecteurs de courant. Donc vous avez ici une vue, une coupe de cette batterie, vous voyez très bien les lignes, ce sont les collecteurs de cuivre. Mais le bleu, c'est ce qui vient des neutrons. Donc au milieu, c'est pas très intéressant, c'est le plastique. Hein. Mais par contre, vous avez du bleu partout à l'intérieur de votre batterie, et ça, c'est du lithium. Et c'est du lithium élémentaire qu'on voit grâce à la diffusion neutronique. Alors, c'est très intéressant de comparer une cellule qui est toute neuve avec une cellule qui a été vieillie, en l'occurrence 700 cycles par l'industriel. Donc, encore une fois, les couleurs. Hein, donc, vous avez bien vos collecteurs de courant en cuivre, en rouge, là, avec l'anode silicium qui est cotée des deux côtés. Vous devinez aussi cette ligne noire ici, c'est le collecteur d'aluminium avec la cathode des deux côtés. Entre les deux, il y a un séparateur qui est très fin. Et vous avez ici toute la séquence de l'enroulement. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est que dans la batterie vieillie, on a l'impression que c'est tout flouté. Ce n'est pas un artefact de mesure, c'est vraiment la réalité, c'est-à-dire que cette batterie vieillit, il y a des endroits où il y a des trous noirs, donc il n'y a pas du tout de lithium, alors qu'il devrait peut-être y en avoir, et il y a des endroits où il y a des lignes bleues très brillantes, il y a trop de lithium accumulé, donc du lithium qui pourrait être plété ou qui est en tout cas piégé dans cette batterie qui a vieilli. Donc on a une visualisation quand même assez directe du vieillissement sous la forme de cette accumulation de lithium piégé dans en particulier à l'anode. Alors, si on zoome sur certaines régions, on a découvert qu'il y avait des régions où on avait carrément le collecteur de courant qui est complètement déformé. Et sous ce collecteur de courant déformé, une zone un petit peu plus noire que ailleurs. Donc ça nous a intrigués. Bon, les neutrons, c'est très bien pour voir le lithium, mais la résolution spatiale, comme vous pouvez voir, est quand même pas extraordinaire. Et ça, on n'y peut rien. Le faisceau de neutrons, il est quand même très gros. Donc, on allait faire des X haute résolution en tomographie au synchrotron. Et là, vous voyez, cette zone ici, c'est une des zones qui est courbée là. Et ce que vous voyez très bien avec les X à haute résolution, c'est que cette zone-là, elle est extrêmement compacte. Elle a perdu sa porosité. Hein, donc, là, on est dans la node. Contrairement à la zone voisine, on n'a plus du tout de porosité. Donc, on comprend bien qu'ici, on a eu quelque chose qui s'est passé qui a bouché les pores, quoi, ou qui a modifié complètement la microstructure de l'électrode. Alors, on le voit, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, pour savoir pourquoi, on a besoin d'une autre expérience. Et donc, dans ces cas-là, on va faire de la tomographie également, mais spectrale. Donc, ce n'est pas des niveaux de gris, de blanc ou de gris que je vais voir, c'est dans chaque pixel un spectre. Donc, je suis capable de sélectionner les pixels qui correspondent à la node et de regarder l'évolution du graphite. C'est toujours pareil, hein, c'est le staging du graphite. Et je colore les différents pixels dans ma cellule en direct pendant le cyclage de cette cellule. Et donc, ce que vous voyez, eh bien, c'est que dans les zones qui m'intéressent, qui sont défectueuses, ben maintenant, je comprends très bien ce qui se passe. Les ions arrivent, hein, on voit que c'est assez hétérogène d'ailleurs. Tout le monde n'est pas vert en fin de lithiation. Et puis, on a dans ce défaut central, ça ne marche pas, c'est inactif. Visiblement, les ions n'arrivent pas. Alors, au passage, on a beaucoup d'informations quantitatives sur les modes de diffusion qui ne sont pas tous radio, mais qui peuvent être un peu transverses. C'est très, très intéressant, ces données, mais je n'ai pas le temps d'en dire plus. Je me focalise sur ces petits défauts. En combinant ça, plus ça, plus ça, je vois en fait qu'il y a des zones qui sont défectueuses dans cette cellule, mais je ne sais toujours pas pourquoi. Mais j'ai accès à une autre modalité avec cette manip-là qu'on appelle SWAX Computed Tomography. Donc je fais pas seulement de la diffraction, je fais aussi de la nanostructure avec les petits angles. Donc et je peux voir le silicium. Le silicium, il s'amorphise, donc en fait avec la diffraction, on ne le voit pas. Avec les petits angles, on a accès à sa nanostructure, à la fois à la quantité de silicium que j'ai et au degré d'expansion de ce silicium. Et alors ce que je vois maintenant très net, hein, c'est que dans cette région défectueuse, c'est la même, hein, on regarde exactement au même endroit, j'ai une accumulation extraordinaire de silicium, j'ai un gros blob de silicium en fait, hein. J'ai un gros cluster de silicium, et ce silicium, il est tout violet foncé, là, il n'est plus du tout capable d'être actif en fait. Donc là, j'ai une explication. Donc en combinant ces quatre modalités, non seulement j'ai observé quelque chose, mais je sais pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Ces défauts qu'on voit, ils sont dus à une agglomération locale de silicium. On est même capable de déterminer la taille à partir de laquelle cette agglomération elle va être problématique. Elle va effectivement, dès le cycle de formation, déformer le collecteur de courant, rendre inactif cette zone. C'est irréversible en fait, ça gonfle tellement. Et ensuite, le graphite lui-même ne peut plus fonctionner. Donc ça, c'était des choses qui ont été très, très intéressantes de discuter avec l'industriel avec qui on a travaillé, puisqu'on a pu finalement donner une sorte de recette pratique dans ce cas-là, hein, dans ce matériau. Il faut absolument contrôler l'agglomération dans l'encre elle-même au moment de la fabrication de l'électrode. Sinon, on va avoir ce genre de défaut partout dans la cellule. Vous voyez que quand on a des tout petits spots, on en a partout de l'agglomération, mais quand c'est petit, c'est pas grave. Il n'y a pas d'impact trop négatif sur le fonctionnement global de la cellule. Voilà. Alors, le dernier exemple, je vais aller assez vite, concerne l'étude de cette cellule sodium-ion qui vient d'ici, hein, du collège, avec les différents collaborateurs. Donc, c'est une fibre qui est insérée dans la cathode. Et voici la pouch qui a été fabriquée au Collège de France avec la fibre qui est ici. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'était la même chose, d'aller mapper en fait la surface de cette fibre et d'être capable de mesurer une grandeur structurale qui va nous permettre de comprendre l'état de charge et les réactions dans la pouch pendant le cyclage. Donc ça ressemble à ça. On a fait en fait deux pouches en parallèle. On fait toujours deux en parallèle ou trois pour avoir un petit peu de statistiques. Vous avez ici une photo de la manip. Donc on a deux détecteurs sur cette manip. Alors ça, c'est très intéressant parce que avec la diffraction, on a accès à la structure cristalline, donc côté PBA, alors qu'avec les petits angles, on a accès à la structure nano-poreuse, donc côté plutôt hard carbone. Donc en fait, il y a un trou dans le premier détecteur, donc on a à chaque fois les deux informations. Ça, c'est quand même assez, assez intéressant. Donc la première chose, ça a été de comparer le résultat mesuré par infrarouge au laboratoire au Collège de France avec ce qu'on a obtenu avec la XRD et en termes de mécanisme, de transformation de phase du PBA. Il y a un bon accord entre les deux mesures avec finalement un comportement biphasique. Alors la deuxième chose, ça a été la capacité qu'on a de mapper, hein, donc avec ce faisceau de synchrotron, l'entièreté de cette pucelle. Donc on a fait ce qu'on appelle des grosses maps, qui n'étaient pas extraordinairement résolues. Donc dans chacun des points, on a à la fois la diffraction et les petits angles, et puis on regarde l'évolution de ces maps au niveau du hard carbone et au niveau du PBA. Pendant la désodiation du hard carbone, on voit très bien, hein, la désodiation puis la resodiation, c'est très corrélé avec ce qui se passe au niveau de la note. On a même, vous voyez, c'est très hétérogène et on remarque les patterns d'hétérogénéité qui sont très corrélés. Bon, ça c'est une chose, mais ce qui nous intéressait, c'était d'aller zoomer vraiment sur la fibre et de regarder ce qui se passait de manière très locale autour de cette fibre. Donc on fait des toutes petites maps. Alors là, on a une résolution qui est bien meilleure. On a quatre lignes, donc elles sont collées, mais en fait, dans la vraie vie, elles sont séparées de 35 mm. Et là, vous voyez que vous avez une visualisation de la fibre. Vous la voyez avec cette couleur. Alors, c'est pas une, comment dire, c'est une couleur qui traduit un état de charge, hein. Donc, ce que vous voyez, c'est que localement autour de la fibre, vous avez une anomalie, en fait. L'état de charge n'est pas le même qu'à côté. On peut comprendre ça en plottant des grandeurs, donc des ratios de pics qui vont finalement être qui vont donner l'état de charge, hein, en fonction du temps, donc pendant le cyclage. Et vous avez des courbes qui représentent la moyenne des grosses maps et des petites maps en bleu et en rouge. Et puis la courbe verte ici, ben, c'est ce qui se passe autour de la fibre. Donc vous voyez que vous avez un petit décrochage, hein, et que la fibre elle surestime en fait toujours l'état de charge. Et en fait, elle est il y a un délai cinétique d'à peu près 20% si on estime avec cette courbe-là. Alors la mesure synchrotron, elle est intéressante dans ce système parce qu'on peut en fait construire une fibre virtuelle. On a des pixels, on les assemble comme on veut, on fait des lignes comme ça, et puis on peut regarder ce qui se passe dans chaque endroit de cette pouch qui est intrinsèquement relativement hétérogène. Alors c'est peut-être lié à la pression qui était appliquée, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder que quand on va s'écarter de cette fibre, quand on est à 50 microns de cette fibre, hein, on a un comportement qui redevient en moyenne le même que celui de la cellule. Voilà. Donc le message ici, c'est que l'électrode est très hétérogène, et donc prendre en compte ces hétérogénéités, ben, c'est très important en fait pour savoir ce que l'on mesure avec des capteurs que l'on met dans les cellules. Voilà. Je vais récapituler ce que je vous ai montré. J'ai montré beaucoup d'exemples, je suis allée assez vite sur chacun des exemples, mais c'était vraiment pour illustrer la variété des techniques qu'on peut mettre en place en fait au synchrotron à toutes les échelles pour regarder des propriétés qui peuvent être structurales, chimiques, morphologiques. Et je dirais que si je devais résumer ce que je viens de dire, c'est que la grande force du synchrotron, c'est de faire cette possibilité de cartographier en fait des propriétés à des échelles ultimes en fait d'espace et de temps. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait au synchrotron. Je rajouterais que pour l'avenir, je vous ai montré cet exemple, il est assez emblématique. On a souvent besoin de combiner en fait des modalités ou des techniques pour vraiment avoir le fin mot de l'histoire quand on cherche à comprendre l'origine d'un phénomène, pour avoir une compréhension plus holistique. On développe également de plus en plus des couplages entre des techniques synchrotron et puis des techniques comme l'analyse de gaz, par exemple. Donc on a fait une manip, donc c'est exactement la même chose que ce qui a été fait sur la pouch de sodium avec la fibre, où on a connecté avec un spectro de masse, et là on est allé regarder ce qui se passait en over potentiel sur une cathode. Donc ça, c'est aussi des développements récents. Côté atomistique, propriété électronique, c'est aussi très important de combiner les différentes techniques. J'en ai pas tellement parlé dans cet exposé, mais on peut vraiment combiner les techniques de Dix de synchrotron avec les techniques de spectroscopie plus classiques de laboratoire, et également avec la simulation pour arriver à comprendre bien des problématiques de disproportionnation ou d'organisation locale dans les matériaux de batterie. Alors au passage, vous avez vu dans tous les exemples que j'ai pas une seule cellule qui se ressemble. Quelquefois on peut regarder des cellules qui sont presque commerciales, on peut regarder des cellules commerciales, quelquefois on a des cellules qui sont maison, hein. Donc ça, c'est quand même c'est pas pour s'amuser qu'on regarde des cellules différentes, c'est parce que chaque technique peut avoir des contraintes, et donc il faut à chaque fois développer une cellule opérando. Le cœur de ce travail en fait, c'est de développer des bonnes cellules opérando dans lesquelles on va avoir une électrochimie décente, et on va être capable de mettre en place la sonde qu'on veut mettre en place pour obtenir l'information qu'on cherche. Donc je dirais que ça m'amène sur le premier challenge dans ce genre d'études. C'est en fait, c'est un triangle. Est-ce que ce qu'on fait est représentatif? Est-ce que ce qu'on fait est reproductible? Et est-ce que ce qu'on fait est fiable? Voilà. Donc il y a beaucoup d'études au synchrotron qui travaillent sur un échantillon, une fois, avec une technique, et il n'y a pas tellement d'informations sur ce genre de choses. Et bon, ça c'est une limitation, et à mon avis, à l'avenir, il va vraiment falloir qu'on s'occupe de ça. Et donc on commence sérieusement à systématiquement comparer toutes nos cellules opérando avec du cyclage au moins en pile-bouton ou dans d'autres systèmes, et vérifier que voilà, quel est le degré de représentativité de notre setup. On s'intéresse également à ce qu'on appelle l'interaction avec le faisceau. Donc ce faisceau de photons hyper brillants qui arrive sur l'échantillon, il peut perturber en fait les réactions, voire créer des réactions parasites. Donc ça c'est pareil, dans la littérature il y a plein d'exemples de transitions de phase ou de choses qui sont observées dont on se rend compte maintenant que peut-être c'est induit en fait par le faisceau. Donc on a une très belle sonde, mais il faut quand même qu'on vérifie qu'elle n'est pas en train de perturber complètement notre système. Donc on développe de plus en plus des protocoles pour calculer ce qu'on appelle la dose et être sûr qu'on est dans des bonnes conditions pour mesurer vraiment ce qu'on veut faire. Et puis la troisième pointe du triangle, c'est les données. Donc bon, je me suis amusée à compter un petit peu là ce que je vous montre dans cet exposé. C'est à peu près 5 terabytes, peut-être plus ou moins 2 de données. En fait, on accumule énormément de données. Donc c'est 30 jours de temps plein de faisceau qui se sont étalés sur 3 ans, et on met à peu près une année en fait pour analyser une expérience. Donc voilà, ça c'est clairement un goulet d'étranglement sur ce genre de technique, et on a vraiment besoin d'infrastructures pour les donner, pour les stocker, pour les acquérir, pour les visualiser. Et je fais juste une petite conclusion là, c'est que de plus en plus évidemment on a besoin d'utiliser des outils d'intelligence artificielle justement pour traiter cette masse de données. Donc ça c'est aussi un challenge dans cette science des rayons X maintenant, c'est d'incorporer l'automatisation et l'intelligence artificielle. Le deuxième challenge que j'ai repéré, c'est la nécessité de développer des standards et des protocoles, et également de relier en fait les communautés de la batterie et du synchrotron. Voilà. Donc ça peut se faire via des infrastructures collaboratives. Donc à Grenoble, on a mis en place ce qu'on appelait un European Battery Hub. Avec le SRF, c'est simplement une modalité qui permet d'avoir accès au temps de faisceau de manière un peu privilégiée et stable pendant 3 ans sur des lignes de lumière qui sont intéressantes, et de partager dans un consortium européen avec plusieurs groupes les questions, les outils, et de développer des outils pour la communauté en fait. Donc de développer ces outils de standardisation au niveau de l'électrochimie, standardisation au niveau des cellules, de l'évaluation du faisceau, etc. Et au-delà de cette initiative locale, globalement, essayer d'avoir plus de liens entre les infrastructures et puis des workflows qui seraient plus efficaces de manière à répondre plus vite aux questions qui sont posées. Le dernier challenge, c'est d'explorer des nouveaux territoires. Donc j'ai pas eu le temps de parler dans cet exposé du X-FEL, qui est une sorte de synchrotron qui produit un laser de rayons X, donc avec des propriétés nouvelles qui permet d'accéder à un champ de dynamique inexploré, donc avec des processus très courts de la femtoseconde. Donc des projets en particulier ici au Collège de France avec d'autres instituts essayent d'utiliser ces outils pour aller observer en fait les phénomènes de transfert électronique et de transfert ionique, les phénomènes élémentaires. Voilà. Donc c'est un nouveau champ d'exploration qui s'ouvre. Toutes les techniques que j'ai montrées, plus ou moins, elles existent aussi avec le laser. Donc il y a tout à inventer avec ce genre d'outils. Et puis un autre challenge, alors qui est un petit peu le contraire, on va dire, enfin, ou pas le contraire, mais un autre pendant, c'est d'essayer d'aller plus vite et mieux sur les batteries, en fait. Sur les batteries, sur les vrais objets. Donc ça passe par de la robotisation, ça passe par de l'automatisation, ça passe par de l'intelligence artificielle, et on n'en est pas loin. On est à l'aube, en fait, de ça. Donc ce que je vous ai montré sur la batterie avec les modalités, ça a pris 3 ans, mais une fois qu'on l'a fait une fois, on a des routines automatisées, donc on n'est pas loin de pouvoir faire de la tomographie haut débit, mais haute résolution aussi, sur des cellules en fait, ce qui pourrait être très intéressant, notamment pour aller plus vite avec le sodium, parce qu'on a mis quand même 20 ans à mettre au point ces outils sur le lithium. Donc maintenant, peut-être qu'on peut aussi répondre à des questions industrielles et avoir plus d'efficacité au niveau du transfert vers l'innovation grâce à tous ces outils que je viens de vous montrer aujourd'hui. Je terminerai par les remerciements. Je voudrais remercier tous les collaborateurs de ce que je vous ai montré aujourd'hui, en particulier tous les gens qui travaillent sur les lignes de lumière à l'ESRF et aussi à l'ILL, qui sont clés pour qu'on puisse faire ces expériences. Et puis, je voudrais remercier particulièrement 3 collègues qui sont des spécialistes, donc Samuel Tardif, spécialiste de micro-LAOE, Victor Vampel, spécialiste de tomographie à l'échelle nano, Quentin Jacquet, spécialiste de micro-diffraction. Donc ce sont eux qui ont piloté ces expériences. Et puis, tous nos César et postdoc, Sayul, Eric, Yuanxi, Annabelle, Gosdé, Federico et Saptarchi qui ont fait en fait les mesures que je viens de vous montrer. Et je vous remercie pour votre attention.
Merci à tous, merci à Jean-Marie et professeur Tarascon de nous avoir invités et de me offrir l'honneur de clôturer ces cours, cette année de cours. Alors je me sens un peu inopportun par rapport à tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, parce que je vais être extrêmement moins scientifique que mes prédécesseurs, même si j'ai essayé de glisser un peu de choses pour montrer que je sais à peu près de quoi je parle. Donc, je m'appelle Hervé Boeuf, je suis le CEO de Tiamat en effet, et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment on boucle la boucle entre une technologie qui, à un moment donné, est inventée, découverte par une partie des gens qui sont dans la salle, et ensuite commercialisée, parce qu'un produit a beau être génial, il n'est génial que s'il a un marché, que s'il répond à un besoin. Et aussi comment on passe finalement d'un concept à une cellule qui doit répondre à un certain nombre de critères industriels, dont la cyclabilité, le vieillissement, mais aussi le coût et le coût d'usage, donc toutes ces choses-là qui sont nécessaires, ainsi que l'industrialisation qui est aussi un challenge en soi, notamment quand on est dans une zone géographique qui ne possède pas trop de savoir-faire dans le domaine. Donc on vient, je pense que c'est un secret pour personne, de la grande recherche française, hein, donc notamment le CNRS et d'ailleurs le CEA. Le groupe de chercheurs que vous voyez là, vous en connaissez une partie, j'imagine, dans les années 2010, un certain nombre de travaux sur le sodium-ion et notamment le NVPF versus HC. Et puis en 2017, Tiamat a été créé comme une start-up finalement privée, hein, puisque les industriels ne montraient pas un grand intérêt dans cette technologie-là, le sodium dans un premier temps, et notamment ce couple NVPF-HC qui a une densité d'énergie qui est relativement beaucoup plus faible finalement que les technologies mainstream à l'époque, dont l'objectif était de rechercher la densité à tout prix. Et puis nous avons travaillé ça, nous avons récupéré des brevets du CNRS, une licence exclusive, c'est une chance. Et nous continuons à avoir des inputs du CNRS. Et puis depuis 2017, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur le combo, les électrolytes. Et puis en 2023, on a eu la plus belle récompense qu'on puisse avoir, puisqu'on a été la première société au monde à commercialiser une batterie sodium-ion dans un ensemble électromécanique. Alors il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication, notamment en Asie. Mais aujourd'hui, personne ne peut se targuer de l'avoir fait. Donc nous sommes et serons à jamais la première société à l'avoir fait. Et puis, après, la vie de société nécessite aussi de l'argent. Hein, donc, c'est un monde cruel. Donc, en 2023, nous avons accueilli au capital Stellantis, Arkema, BDA. Et puis, nous sommes en train de clôturer une dernière phase d'augmentation de capital avec notamment un investisseur américain dont je parlais un petit peu plus tard. Et nous sommes maintenant à l'orée, finalement, de construire notre Gigafactory. Alors, en l'occurrence, Megafactory, dans un premier temps, pour satisfaire nos premiers volumes commerciaux que nous avons conclus. Donc, notre objectif à nous, c'est d'être le leader dans le monde des sodium batteries, en particulier dans les applications de puissance. Ça, c'est vachement important, c'est très spécifique. Alors, voilà ma prétendue science, mais je voulais un graphe qui ressemble un peu à ce que vous avez montré, même si c'est extrêmement vulgarisé, pardon. La famille sodium-ion est déjà une grosse famille. Sodium-ion, ça ne veut rien dire, comme lithium-ion, LFP, NMC, etc., etc. Dans le sodium-ion, il y a déjà trois familles globalement mainstream. On les a mentionnées toutes, vous les connaissez probablement par cœur. Prochaine Blue Analog, on part du bas, des ferrocénates de sodium. Moyenne énergie densité d'énergie moyenne, intrinsèque. On ne voit pas bien comment on pourra en extraire des densités intéressantes au niveau de la cellule. Très peu cher, mais une sensibilité aussi, notamment à l'eau dans le process. Donc pas mal de blocages aujourd'hui. Et puis après, je vais passer en haut, hein, les layers, les lamellaires, donc qui sont, je dirais, les NMC hein, du lithium-ion en sodium, donc avec tout un tas de structures possibles, imaginables. Et là, on voit que beaucoup de personnes travaillent dessus. Hein, donc CATL, Faradion, bien connu, Aina Battery, BYD maintenant. Là, on essaye d'avoir le maximum de densité d'énergie en utilisant plusieurs composés. Alors le truc basique, c'est sodium, fer, manganèse, mais on peut ajouter plein de trucs. Et là, on va avoir effectivement des densités d'énergie plus importantes, mais des réactivités de cathode qui sont aussi plus difficiles à gérer, hein, notamment dans l'industrie. Et puis au milieu, là, un petit peu tout seul, vous avez ce qu'on appelle les matériaux polyanioniques, hein, Donc, notamment avec ce composé, abrévié NVPF, qui serait un peu le LFP du sodium ion, et sur lequel, ma foi, on est tout seul. Alors, on n'est pas tout seul parce que c'est nul, hein. on est tout seul parce qu'en fait, c'est extrêmement bien protégé, hein, par le CNRS, dont on bénéficie effectivement via un contrat de licence exclusive, mais aussi parce que, historiquement, en fait, la puissance, hein, les batteries de puissance, hein, qui sont un petit peu pas densité d'énergie, mais puissance, je vais l'expliquer tout à l'heure, ça fait rêver personne. Pourquoi ? Parce que ce sont des marchés dits de niche. Alors, des niches pour des gros chiens, mais cela dit, marché de niche quand même, puisqu'on a quand même de gros volumes et de gros besoins qui sont très mal aujourd'hui adressés, je dirais, par les technologies mainstream. Et c'est un peu là notre objectif, c'est d'aller se mettre sur ces marchés de niche, vraiment là où, quelque part, le lithium-ion ne fait pas bien le job, entre guillemets. Alors, très classique, ça, par contre, vous connaissez ce positionnement entre la puissance et l'énergie. Alors, l'énergie, c'est la taille de la bouteille, hein, et puis la puissance, c'est la taille du goulot, hein, tout simplement. Donc, plus on est par là-bas, sur l'axe des abscisses, plus on a, évidemment, une capacité rapide à rentrer l'énergie, sortir l'énergie, donc à se fast-charger. Le maître étalon, là, c'est les supercaps. Hein. Les supercaps, ça se charge, ça se décharge très vite. Par contre, la bouteille, elle est toute petite, hein, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça qu'on est bas sur l'axe des ordonnées. Et le champion du monde sur l'axe des ordonnées aujourd'hui, j'ai pas mis le solid state, mais c'est effectivement le lithium-ion NMC, haute densité d'énergie, nickel-rich, etc. etc. Mais qui, lui, effectivement, aussi est très peu avancé sur l'axe de la puissance, parce qu'on peut faire de la décharge, hein, on peut avoir un gros goulot en décharge, c'est assez asymétrique cette affaire. Mais par contre, on a un tout petit goulot en charge, c'est-à-dire que quand on veut essayer de charger vite une batterie à énergie lithium-ion, on a du mal, hein, parce que le goulot il est trop petit, puis on va faire tout un tas de phénomènes que vous avez très très bien expliqué. Et voilà, et ben, en fait, là, vous voyez en moutarde, ici, il y a le produit de Tiamat Génération 1, qui est le fameux NVPF sur HC. C'est, en gros, un super cap avec presque 10 fois plus de densité d'énergie. Aujourd'hui, on a à peu près 110 watts par kilo, ce qui paraît faible dans les applications de... Effectivement, on ne peut pas faire une voiture électrique avec ça, parce que ce ne serait pas assez. En revanche, on a 15C en charge, donc pour ceux à qui ça parle, c'est absolument énorme. Ça veut dire qu'on peut charger ce truc-là en moins de 10 minutes. Et puis, on travaille sur une génération 2. Un jour, on nous a dit, ouais, c'est bien ce que vous faites, mais pourquoi vous essayerez de pas faire une bouteille un peu plus grosse ? Donc, on sait ce qu'on est en train d'essayer de faire, bouteille un peu plus grosse, tout en gardant un goulot suffisamment grand en charge. Mais vous le voyez, hein, sur le graphe de droite, la Gen 1, le NVPF, c'est TRL8, ça veut dire c'est vendu, hein, donc c'est un tien. Hein. Et la Gen 2, c'est plutôt un Tulora, hein, pour l'instant, puisqu'effectivement, on est en TRL4, donc il y a beaucoup, beaucoup de développement. On reprend un petit peu là où on en était en 2017 avec Gen 1, c'est-à-dire avec des verrous qui vont être résolus par l'électrolyte, par le design, par les séparateurs, par de la formulation, par des binders spécifiques, etc. etc. Donc beaucoup de travail aujourd'hui pour amener cette technologie à un taux de cyclage correct, une densité d'énergie cible et une performance en puissance cible. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur Gen 1. Tiamat, aujourd'hui, c'est la commercialisation de Gen 1 qui est vraiment le challenge aujourd'hui auquel on s'adresse. Donc Gen 1, qu'est-ce que c'est ? Je l'ai dit, forte densité de puissance. J'aime beaucoup ce muscle-là. Fast charge, ça veut dire fast charge. On est capable de faire 15C en clôture, on est capable de faire même 60C en pulse, pour ceux à qui ça parle, c'est absolument monstrueux. Et en plus, on a la chance d'avoir une safety qui est extrêmement importante, c'est-à-dire que vous pouvez percer une cellule sodium-ion Tiamat, encore une fois, NVPFHC. Il ne se passe pas grand-chose, je vais le montrer tout à l'heure. Et puis une très forte durée de vie, aujourd'hui on est à peu près 5 à 10 fois supérieur à, on va dire, un NMC en cyclage au rate, hein, 2C5C à full DOD, ce qui est assez très 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 élevé, ce qui donne de très bons avantages aussi pour, je dirais, le total cost of ownership, c'est-à-dire le taux de possession du système de batterie pendant toute sa vie. Alors, je ne vous mens pas, hein, ça, c'est des vrais trucs. Si je vous montre ça en lithium-ion, c'est feu, explosion, catastrophe. Et là, en fait, quand on fait des tests, destructifs de cellules sodium-ion, on s'ennuie beaucoup. Là, on a essayé de la chauffer. On l'a chauffé à 200 degrés avec des pattes thermiques. Ça fait pchit et puis c'est tout. Si vous faites la même chose avec, encore une fois, du NMC, vous allez avoir, évidemment, ce qu'on appelle un emballement thermique très violent. Il va y avoir une génération de chaleur, auto-génération de chaleur qui va être très, très violente. Ça ne se passe pas avec notre technologie. Ça, c'est des cyclages, je vous l'ai dit, 10 000 cycles, c'est bien. Mais c'est surtout ce qui est remarquable, c'est que si vous la mettez à 55 degrés Celsius, eh bien, certes, vous réduisez le nombre de cycles, mais vous en faites encore 2500 cycles. Vous cyclez du LFP à 55 degrés Celsius, vous faites quelques centaines de cycles. Donc on a vraiment là aussi une cellule qui a une remarquable tenue à la température, donc qui était vraiment une cellule qui est robuste et qui peut être utilisée dans des conditions extrêmes. Alors ça, bon, c'est pour ceux à qui ça parle, c'est les graphes de temps de charge en fonction du C-rate. Moi, ça ne me parle pas beaucoup, donc je le passe. Et en fait, ça sert à quoi ce truc-là? Parce que c'est vachement important de se dire à quoi ça sert. Ça sert principalement à des applications dites industrielles, dans un premier temps, et puis des applications dites de mobilité dans un deuxième temps. Donc, industriel dans un premier temps, mobilité dans un deuxième temps. Qu'est-ce qu'on fait en industriel? On a mis l'outillage électroportatif dedans. On a mis aussi, en haut, vous voyez, des beaux containers. Alors, ce n'est pas très, très sexy dans les soirées de raconter ce qu'on fait quand on fait des containers remplis de cellules. Mais en fait, c'est vachement important. Pourquoi est-ce que... Ce n'est pas le stockage du photovoltaïque ou de l'éolien qui nécessite de la densité d'énergie. Nous, ce qu'on fait, non. C'est plutôt ce qu'on appelle les UPS. Ce sont des dispositifs de protection de l'aval. C'est-à-dire, vous avez une coupure de courant. Vous ne voulez pas que, par exemple, votre data center... centre de stockage de données sur lequel il y a tout ce qu'on est en train de vous montrer là se coupe parce que sinon on n'a plus Instagram, TikTok, nos infos, nos machins. Donc on protège tous ces trucs là par des batteries, et il faut évidemment que ces batteries soient très rapides à se mettre en œuvre dès qu'elles sentent une coupure de courant, et ça c'est vraiment le marché pour nous dans les applications industrielles. Je vais y venir. La mobilité, c'est pas mettre des batteries pour faire une traction. Je l'ai dit tout à l'heure, génération 1, 110 watts par kilo. Vous remplacez les batteries d'une Tesla par le sodium-ion NVPF. Vous faites pas 500 km, vous faites 250 km. Donc, intérêt relativement limité. Par contre, vous pouvez charger en 10 minutes, mais il faut beaucoup de puissance. Non, c'est tout ce qui est hybridation, c'est-à-dire accompagnement d'une source primaire d'énergie. Vous avez un moteur thermique. Dans l'accélération, vous avez à côté un moteur électrique qui aide et qui fait qu'on ne consomme quasiment pas de carburant, puisqu'on va utiliser le carburant pour le mode, de roulage. Mais aussi l'hydrogène. On sait qu'il y a un petit problème de rendement sur les piles à combustible, mais elles ont quand même besoin, effectivement, d'un pack de batterie pour faire la puissance, parce que le pile à combustible, ça a vraiment un tout petit goulot, si je peux me référer à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, je ne résiste pas encore une fois, tant pis pour ceux qui l'ont déjà vu plein de fois, à vous présenter la 8e merveille du monde, donc notre outillage électroportatif chez Dexter. Sachez qu'à partir de la fin de l'année, 100% de la gamme Dexter chez Leroy Merlin ne sera plus lithium-ion, mais sera sodium-ion et sera powered by Tiamat, c'est écrit sur la boîte derrière. L'avantage, on l'a, moi je l'ai, on en a vendu une petite série. En 10 minutes, le truc est chargé, quoi. Qui n'a pas eu à attendre une heure et demie qu'une perceuse ou un truc lithium-ion. Voilà. Et puis, par contre, oui, on ne va pas faire 1000 trous, on va peut-être en faire 800 ou 700, mais qui a besoin de faire 700 trous avec un machin pareil? Pour les professionnels, évidemment, il y aura des accus changeables et autres. Donc voilà un peu une application où il a fallu se creuser la tête, se dire ce produit-là, finalement, quels sont ces débouchés marché? Voilà un débouché marché absolument remarquable. Alors, c'est notre première entrée sur le marché. C'est petit comme volume. On parle de plusieurs dizaines de kilowattheures annuels, même si en nombre de cellules. L'année prochaine, on va vendre 300 000 cellules pour honorer ce marché-là. En fait, ça n'est pas beaucoup, c'est des petites cellules cylindriques. Du coup, on a trouvé une deuxième application avec des cellules prismatiques, des grosses cellules prismatiques. J'ai oublié de prendre, je suis désolé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la protection des data centers, mais pas que, parce que finalement tout le monde peut faire de la protection de data center, mais avec du plomb acide ou des LFP, parce qu'il faut juste du C-rate en décharge, pour dire tiens, une coupure de courant, blâme, je balance tout, et puis après je mets 3 heures à me recharger. Non, ce qu'on va faire nous, c'est que non seulement on va faire la protection du data center avec le client avec qui on travaille, mais aussi ce qu'on appelle la régulation de fréquence. Alors ce graphe absolument laid, parce que je viens de le faire, figurez-vous, je l'ai fait tout à l'heure. Mais ça montre quoi? C'est un exemple de consommation électrique instantanée. Le temps est l'échelle des abscisses, et puis les mégawatts, je dirais, c'est les ordonnées. Sur un data center, il faudrait, dans un cas tout à fait à droite, que l'abonnement électrique couvre le plus grand des pics de consommation. Et un data center, ça marche comme ça. Vous avez une espèce de truc, et puis il y a des pics des fois, parce que tout le monde veut faire du ChatGPT à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, et on ne peut pas le prévoir. Donc il faut le couvrir, Et pour le couvrir, en fait, on va utiliser l'UPS Tiamat pour, on va dire, on va brancher une certaine capacité sur le grid de ce data center. Et l'excédent, on va le faire avec l'UPS Tiamat. C'est-à-dire que l'UPS, il ne va pas juste servir si jamais il y a une coupure de courant un jour ou jamais. Il va servir très régulièrement à se décharger pour compenser les coupures de courant parce que l'abonnement grid est moindre. Mais il va falloir qu'il se recharge très vite parce que vous voyez là, ici, le pic, le premier, mais il y en a un juste après, quoi. Donc s'il s'est déchargé et que l'autre pic, il arrive et qu'on ne s'est pas connecté sur le grid suffisamment, plus de TikTok. Donc il faut vraiment qu'on ait un temps de recharge très très rapide. Aujourd'hui, on est en train de cycler cette batterie-là à 20C, charge, décharge, continuellement comme ça. Ça va être comme ça qu'elle va travailler. C'est assez remarquable. On a la chance aujourd'hui qu'aucune autre technologie n'est capable de le faire. Et on a vraiment trouvé là une utilisation très spécifique, très niche, mais très tech de cette technologie-là. Et c'est aujourd'hui ce qui nous amène à considérer. Alors, c'était trop simple. Hein. Nos clients, en fait, les cellules, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, eux, c'est des modules, donc des assemblages de plusieurs cellules en série, en parallèle, et c'est aussi assembler ça dans un rack. Donc il faut aussi, hein, c'est pas tout, hein, donc on vous rappelez, on était sur les découvertes en 2010 du NVPF, là on en est là maintenant, à intégrer les cellules, non seulement qu'il a fallu concevoir, prévoir, régler, mais aussi à les intégrer dans des modules. Il y a de la thermique, une cellule qui fait 20C, c'est bien, mais si le module il dissipe tout en chaleur, ça sert strictement à rien. Donc il faut que le module le passe, il faut que le rack le passe, il faut que l'électronique le passe. On a chez nous une ingénieure, que certains d'entre vous connaissent, qui a écrit les algorithmes de gestion, par exemple, du state of charge, des batteries sodium-ion. Vous avez vu tout à l'heure les courbes d'OCV, qui sont un petit peu bizarres, hein, avec des plateaux, des machins. Donc il y a une partie du temps où on ne sait pas trop où on est. Donc il y a tout un tas de... Il a fallu aussi développer ça. Hein, ça c'est aussi ça, de la chimie à l'applicatif. Hein. Bon, voilà, on a fait aussi des choses pour la mobilité. Hein. C'est PAC, là, que vous voyez. Il y en a trois qui sont partis en Corée aujourd'hui. C'est un fabricant automobile pour l'hybridation automobile. Une petite remarque, quand même, c'est important aussi. La chimie, la tech, les brevets, les découvertes, la grande science, il y a aussi de dures réalités industrielles. Alors moi, je viens du monde industriel, hein, j'ai fabriqué tout un tas de trucs rigolos, mais en tout cas, une chose que j'ai toujours, pour laquelle j'ai toujours prêché, hein, c'est le savoir-faire industriel, c'est fondamental. On ne l'a pas en Europe. Hein. Donc on a milité, ou j'ai milité assez vite pour aller le chercher en Asie. Ça n'a pas été très populaire au début, mais en tout cas aujourd'hui, c'est peut-être une des meilleures choses que l'on ait faites. Effectivement, on sous-traite aujourd'hui, hein, nos cellules prismatiques, vous voyez, la grosse à gauche, et puis les cylindriques là-bas, chez deux sous-traitants différents, et on apprend énormément d'eux. On apprend énormément d'eux parce que fabriquer une slurry, fabriquer une encre, y a un énorme savoir-faire derrière, de formulation, etc. On peut faire de la formulation de crème chez Clarins, on peut faire tout un tas de trucs. La formulation d'une encre de batterie, c'est un vrai métier. Ça répond à plein de choses. Et ces gens-là, ça fait 10 ans, 20 ans qu'ils se sont pris des murs, hein, avec des problématiques. On a vu tout à l'heure le mauvais mixing de silicium, par exemple. C'est typiquement ce genre de truc. Alors ça, ils connaissent par cœur. Hein. Donc on a vraiment là, nous, on récupère ce savoir-faire. Et à tel point que on en est sur le projet maintenant de monter notre unité à Amiens, d'une première usine qui aura la capacité de répondre à nos premières commandes, notamment pour notre acteur américain, notre client américain qui est actionnaire entre parenthèses aussi, qui va être actionnaire entre parenthèses, de plusieurs centaines de mégawattheures, qui correspond à notre taille finalement de marché pour l'instant, qui va servir à répondre à ces premiers volumes-là, hein, qui est une étape, hein, je dirais, mais qui va servir aussi à apprendre notre métier. Vous avez vu les problématiques qu'ont rencontrées nos pairs, hein, je pense à Northvolt en particulier, avec, je pense, peut-être des réalités industrielles qui ont rattrapé, je dirais, ces gros projets qui démarrent très très vite beaucoup de choses et qui aujourd'hui ont aussi ce savoir-faire à intégrer. Donc c'est compliqué, il vaut mieux démarrer sur un projet un peu petit, acquérir ce savoir-faire, se l'approprier pour pouvoir ensuite le dispenser. Et donc tel est le projet aujourd'hui de Tiamat, des batteries de puissance, génération 1, la génération 2 je mets de côté volontairement, même si effectivement on travaille d'arrache-pied dessus avec notamment Stellantis. Donc ces produits-là qui viennent effectivement encore de la recherche, qui ont trouvé leur marché, dont le challenge reste à industrialiser correctement, Je n'ai pas parlé de supply chain aussi. Hein. Les matériaux, il ne faut pas les synthétiser à l'échelle du gramme au labo. Hein. Non, il faut trouver des chimistes hein, qui les font à l'échelle. On parle ici de plusieurs centaines, voire de milliers de tonnes annuelles. Donc, c'est ces échelles-là qu'il faut mettre en place. Donc, beaucoup, beaucoup de travail pour pouvoir arriver à positionner un produit comme celui-là, hein, qui est issu de la recherche française, sur son marché. Marché, en l'occurrence, aujourd'hui, qui sera majoritairement américain dans un premier temps et qui probablement drainera dans son sillage de nombreux clients européens. En tout cas, c'est tout ce que nous espérons. Voilà. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.